Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie encore pour moi ce matin de pouvoir célébrer ce culte avec vous, avec mes frères et sœurs en Christ. On a pas mal parlé de Jésus ce matin et Matthieu nous a dit qu'il aurait aimé vivre à l'époque du Christ. Là, on vient de chanter un chant sur la présence de Jésus et c'est vrai que si Jésus se fait présent pour nous, eh bien Jésus désire aussi que nous répondions à son appel. Et c'est ce que j'aimerais vous partager ce matin avec un texte qui se trouve dans l'Apocalypse, Apocalypse 3, verset 20. Alors ce matin, on ne va pas parler de dragon, on ne va pas parler de lac de feu, on va simplement parler de Jésus-Christ. Parce que je crois que le message de l'Apocalypse, finalement, c'est ce message de Jésus-Christ, Jésus qui se fait présent, qui désire que nous répondions à son appel. Jésus qui est là, qui est présent et qui nous dit « Voici, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » On va simplement s'arrêter sur un seul verset ce matin, sur le verset que je viens de citer, Apocalypse 3, verset 20. Et vous allez voir qu'il est très très riche et qu'il nous invite à répondre à l'appel de Jésus. Il nous invite à laisser Jésus entrer. On peut admirer dans la cathédrale Saint-Paul à Londres un tableau de ce peintre, Holman Hunt, qui illustre bien notre verset, qui représente Jésus couronné d'épines et Jésus qui frappe à la porte. En fait, l'artiste, il avait achevé son œuvre lorsque quelqu'un lui fit remarquer, mais il manque une poignée à la porte. Et qu'est-ce que le peintre répondit ? Il répondit, relisez Apocalypse 3, verset 20. Ce n'est pas au Seigneur, mais au pécheur d'ouvrir la porte. Aussi, la poignée ne se trouve-t-elle qu'à l'intérieur. Et je vous propose donc de relire ce verset. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et lui avec moi. Est-ce qu'il nous arrive de mettre Jésus à la porte ? Oublions-nous parfois celui pour qui nous vivons ? Celui sans qui eh bien, notre Église s'effondrerait ? Nous courons souvent dans la vie après les examens, on est pressé par le travail, on est pressé par les cours, par toutes les activités qu'on peut avoir. Parfois, on peut agir pour Jésus, même dans l'Église, même en tant que pasteur, on peut agir pour Jésus, mais sans Jésus. On peut finalement défiler toutes nos activités, courir jour après jour, sans se rendre compte qu'en fait, on est en train de mettre Jésus à la porte. On est en train de complètement l'oublier. C'est très facile de tomber dans une forme d'autosuffisance, d'orgueil et d'oublier et bien même pour un temps, que Dieu est là, que Dieu est présent. Non seulement il est présent, mais il souhaite nous rencontrer, il souhaite construire son Église. Alors j'aimerais vous dire quelques mots rapides sur le contexte de notre texte, pour qu'on puisse mieux le comprendre. Au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, on trouve une série d'oracles qui est adressé aux différentes églises du livre de l'Apocalypse, dans lesquelles c'est Christ, donc Jésus, qui parle. Et l'oracle qui nous concerne, eh bien, il est adressé à l'église de Laodicée. Laodicée, c'était un centre bancaire très riche. C'était une ville qui était connue dans tout l'Empire pour son argent. Et l'église, elle s'estimait très riche. Elle s'estimait très riche matériellement et on sait probablement qu'il y avait des membres très aisés dans son église. Mais en réalité, cette église, eh bien, elle était au bord de la faillite spirituelle. Pourquoi ? Eh bien, à cause de son orgueil, à cause de son autosuffisance. Et ça, on le voit déjà quelques versets plus tôt, au verset 17, je cite, « Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. » Voilà ce que Jésus dit à son Église quelques versets plus tôt. Donc finalement, ce verset qu'on a souvent tendance à attribuer, on dit souvent qu'il est seulement pour les non-croyants, pour les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie, en fait, j'aimerais vous dire ce matin que ce verset, il est adressé à l'Église en premier. Il nous est adressé à nous, croyants. Nous devons laisser Jésus entrer. Et finalement, la question qui est au cœur de ce verset, c'est la suivante. Quand rendrons-nous à Jésus la place qui lui est due? Et pourquoi je pose cette question? Parce que ce texte nous apprend, nous montre que Jésus, il est à la porte. Jésus, il est là à la porte, il est présent. Et il veut entrer. Et mieux encore, il veut dîner, il veut partager sa vie avec la nôtre. Il veut entrer en communion avec nous. Il désire construire son Église avec nous. Jésus est à la porte. C'est un état de fait. Ça ne dépend pas de nous, Jésus est à la porte. Nous ne pouvons pas échapper à sa présence. Il est là. Alors même que nous le rejetons parfois, Jésus se tient devant la porte et il frappe. C'est là la volonté du Dieu créateur qui a envoyé son Fils sur la terre pour le salut de quiconque croit. Jésus est devant la porte. Alors qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier? Dans le contexte de l'Église de Laodicée, on a des éléments d'éclairage sur le pourquoi Jésus est à la porte. Parce que malgré la situation de l'Église, il se présente avec grâce pour le besoin des âmes de l'Église. Notons que Christ, il est là de toute façon. Il attend devant la porte d'une certaine manière, mais mieux encore, il frappe. Et s'il frappe, j'aimerais dire que ça signifie qu'il ne force pas l'entrée. Et donc, ça renvoie à notre propre responsabilité. C'est à nous d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Et du coup, je vous renvoie au tableau qu'on a vu tout à l'heure, où justement, il y a une seule poignée, parce que Jésus frappe, mais nous avons aussi notre propre responsabilité. Jésus, il n'est pas seulement là à attendre, il souhaite aussi réellement que son Église sorte de son autosuffisance. Vous savez, toutes les fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, où finalement on construit toute notre vie d'Église, mais parfois on oublie pourquoi on fait ça en fait. Pourquoi on décide de se rassembler dimanche après dimanche, semaine après semaine. Jésus est devant la porte. Et en même temps, c'est une posture humble d'être devant la porte, devant une Église qui était orgueilleuse au possible, Laodicée. Jésus aurait pu inverser les rôles et dire, puisque c'est comme ça, je vous ferme la porte. Vous allez devoir attendre devant la porte, frapper jusqu'à ce que je veuille bien ouvrir. Non. Jésus se place devant la porte. Il se met finalement à notre niveau. Jésus montre l'exemple et Jésus s'humilie pour son Église. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. C'est comme un cri. C'est comme un cri de Dieu pour que l'Église réalise que son orgueil, son autosuffisance, sa tiédeur sont en train de la faire tomber. Elle qui est happée par le goût de la richesse et l'autosuffisance, je l'ai déjà dit. Être devant la porte, c'est jamais très agréable. Souvent, quand on va devant des gens, il y a toujours ce petit moment de latence où on sonne et puis ça peut être plus ou moins long le moment où les personnes vont ouvrir, ou pas d'ailleurs. Et donc, il y a toujours ce moment un peu désagréable, je trouve, où on est devant la porte et puis on ne sait jamais trop ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on doit retoquer ou pas? Et Jésus, il est dans cette situation inconfortable. Il se place dans cette situation inconfortable. Et la question qui nous est posée, c'est est-ce que on va le laisser dans cette situation inconfortable ou est-ce qu'on va ouvrir la porte et le laisser entrer. Ça, j'ai déjà dit. Nous avons vécu en 2020 et jusqu'à il y a peu de temps une situation inédite avec le Covid, vous le savez, et plus particulièrement le déconfinement. Nous avons vu que c'est un état de fait, Jésus est à la porte. Mais Jésus n'est pas à la porte comme le Covid. Il ne s'agit pas d'une présence qui se vit dans la fatalité, comme ça a pu être le cas avec ce virus, malheureusement. En fait, le simple fait que Jésus soit à la porte indique son action providentielle. Jésus est là. Jésus est présent. Nous avons chanté tout à l'heure, j'ai soif de ta présence. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, bien, c'est le laisser entrer. Parce que notre dépendance, elle doit venir de Christ. Nous devons être dépendants par rapport à lui. C'est lui qui nous comblera réellement et qui, dans sa grâce, fera concourir tout à nos besoins. Christ souhaite plus que jamais que nous restaurions notre relation avec lui. Il souhaite plus que jamais entrer. Jésus est à la porte, il frappe. Et il y a aussi ce deuxième passage, si quelqu'un entend, eh bien ça montre que cet appel, eh bien il est aussi individuel. Parce que l'Église doit faire place au Christ, elle doit lui rendre la place qui lui revient. Nous devons rendre à Jésus la place qui lui revient. Mais c'est aussi à chaque membre individuellement de le faire. Et j'aimerais vous donner une image, alors elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Mais supposons que l'Église eh bien, soit un village, par exemple. L'Église eh bien, elle aurait à déblayer les rues, à nettoyer le passage pour faire toute la place au Christ. Mais chaque foyer, chaque maison a aussi à laisser entrer Jésus de manière personnelle, de même que les membres de l'Église on va le faire, donc c'est une responsabilité à la fois collective et aussi une responsabilité personnelle. Pour beaucoup, eh bien, le confinement, je crois, s'est traduit par l'attente du déconfinement. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il est peut-être temps aujourd'hui d'opérer un déconfinement spirituel. C'est le moment d'ouvrir la porte et de voir celui qui est à la porte. C'est le moment d'ouvrir la porte, de voir celui qui est à la porte, et c'est aussi le moment de le laisser entrer. Pardon. Parce que Jésus nous exhorte à le laisser entrer. Et il n'y a plus de danger. Ce n'est pas comme le Covid où on hésite encore, est-ce qu'on doit porter un masque ou pas quand on se déconfine. Là, il n'y a plus aucun danger. Il n'y a pas de masque à porter. On peut être vrai avec le Seigneur Jésus-Christ. On peut lui apporter toutes nos souffrances. Toutes nos luttes, même en Église, parce que Jésus est là. Jésus est devant la porte. On ne peut rien y faire. Jésus est devant la porte. À nous de le laisser entrer ou pas. Il y a ce deuxième temps dans notre verset qu'on va voir maintenant où Jésus eh bien, veut entrer. J'entrerai chez lui, nous dit le texte. J'entrerai chez lui. L'appel à ouvrir la porte eh bien, est désormais assorti d'une promesse, celle de l'entrée effective du Seigneur, qui ne restera pas à la porte lorsqu'on lui ouvrira, mais qui entrera. On peut dire en fait que Jésus eh bien, veut demeurer. Il s'agit d'un état constant, durable. Mais pourquoi c'est tellement important finalement que Jésus entre? Je crois que c'est important parce que l'entrée de Jésus, eh bien, elle est permanente, elle nous assure quelque chose de plus grand, mais aussi parce qu'elle est nécessaire. Il y a un but. Et ce but, cet objectif, si on pourrait dire, eh bien, la réponse se trouve au verset 21. Il s'agit d'une espérance glorieuse. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Cette promesse, si Jésus entre, si nous laissons Jésus entrer, si nous le laissons entrer à nouveau, eh bien c'est une promesse d'une participation au règne de Christ. Il y a donc une nécessité à ce que Jésus entre. C'est pas seulement pour nous apporter un plaisir partiel, mais c'est parce qu'un jour nous serons assis avec lui sur son trône, pour siéger avec lui. Et pour ceux qui l'ont déjà accepté, si vous êtes croyant, si vous avez déjà accepté Jésus dans votre vie, eh bien, cette espérance, elle est déjà présente. Mais nous avons besoin peut-être de laisser Jésus entrer. Peut-être que nous l'avons mis à la porte sans nous en rendre compte. Peut-être que nous croyons qu'il est chez nous, mais il est à la porte, il attend. Peut-être qu'on ne l'a pas entendu sonner, tout simplement. Mais il est là, il est devant la porte. Et il frappe. À la lumière de notre texte, eh bien, je crois que nous voyons deux conditions pour que Jésus entre. Ces deux conditions, eh bien, c'est entendre et c'est ouvrir. Ce n'est pas entendre ou ouvrir, mais c'est bien entendre et ouvrir. Et avant d'explorer rapidement ces deux verbes, j'aimerais dire qu'il y a d'abord deux écueils à éviter. D'abord, eh bien, on pourrait très facilement être tenté d'ouvrir la porte pour recevoir bien la récompense promise, mais sans changement réel et visible. On pourrait à l'inverse entendre, c'est-à-dire juste acquiescer, sans pour autant ouvrir la porte, c'est-à-dire laisser Jésus entrer, mais tout en restant dans notre suffisance, comme si on disait « oui, j'ai compris ». J'ai compris, Seigneur, mais sans que nous soyons réellement prêts à changer. Comme un enfant ou un ado qui dit à ses parents, et je l'étais il n'y a pas si longtemps, donc je sais de quoi je parle, un enfant qui dit « c'est bon, j'ai compris, c'est bon ». On dit souvent ça, les ados, « c'est bon », alors que « non, c'est pas bon, en fait ». Ce n'est pas bon du tout. C'est bon, j'ai compris. Juste pour que le Seigneur nous laisse tranquille. Et les deux écueils, finalement, leur conséquence, elle est similaire. C'est l'absence de changement. Dans les deux cas, que l'on n'entende pas ou que l'on n'ouvre pas, ou que l'on entende seulement ou que l'on ouvre seulement, il y a une absence de changement. En réalité, le fait d'entendre, c'est la preuve que nous sommes prêts à ouvrir. De la même manière, le fait d'ouvrir prouve que nous sommes prêts à entendre. Alors, entendre. Entendre, c'est l'une des réponses que l'on peut apporter à ce qu'est... Quelle réponse, on peut apporter à ce qu'est entendre ? Ici, ça se trouve dans l'expression elle-même. Si quelqu'un entend ma voix. Il s'agit donc d'entendre la voix de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite. C'est pourquoi nous devons la méditer, l'étudier, la garder comme un trésor inépuisable. Et je crois que l'auteur il nous exhorte ici à revenir à l'Écriture, à revenir à la parole de Dieu. Parce que sa voix, la voix de Christ, se trouve dans l'Écriture. Parce que entendre sa voix, c'est entendre, c'est donc assimiler sa parole. C'est plus juste, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, on ne sait jamais, si jamais il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est bien plus que cela. D'ailleurs, le fait que chaque lettre de l'Apocalypse, dont la nôtre se termine par « que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église », ça indique l'importance de l'écoute, l'importance d'entendre. Et je crois que nous sommes tous ici dotés d'oreilles, et moi le premier. Alors entendons ce que le Seigneur a à nous dire. Et puis il y a ce deuxième verbe, ouvrir. Il convient d'ouvrir la porte, c'est-à-dire abandonner toutes les choses qui pourraient bloquer le passage. La porte, toutes les choses qui pourraient bloquer la porte, et couper le lien vital que nous devons entretenir avec Jésus. Ce qui bloque, dans le contexte de l'Église de Laodicée, c'est l'aveuglement de l'Église, qui doit être riche, mais qui ne sait pas qu'en fait, elle est pauvre spirituellement, qu'elle est même misérable et nue. Au verset 19, nous lisons « Fais donc preuve de zèle ». Le zèle, c'est justement bouillir d'envie dans la poursuite du bien et dans le changement. Être zélé, c'est justement être bouillant pour Jésus. Abandonner tout ce qui peut bloquer l'accès de Jésus à notre cœur, tout ce qui peut bloquer l'accès de Jésus à notre Église. Abandonner l'orgueil, l'autosuffisance, tout ce qui nous fait basculer dans la tiédeur. Avoir du zèle, c'est marcher sur le chemin de la sainteté. Ce n'est pas osciller entre chaud et froid, mais c'est justement dans la difficulté accepter notre dépendance par rapport à Jésus. Accepter la grâce de Dieu qui seul peut nous faire demeurer dans un zèle sans relâche. Parce que s'il s'agit d'ouvrir la porte, il s'agit aussi de la laisser ouverte. S'il s'agit d'ouvrir la porte, les amis, il s'agit aussi de la laisser ouverte. Et donc de ne pas tergiverser, de ne pas osciller. Osciller reviendrait à ouvrir, puis fermer, puis ouvrir à nouveau, à la manière d'un pendule qui oscille de gauche à droite. Si nous laissons Jésus entrer, attachons-nous à ce qu'il demeure pour de bon. Parce que Jésus est présent. Jésus est là devant la porte, il veut entrer. Et l'étape suivante, c'est qu'il veut dîner. Il veut partager avec nous notre vie, notre Église. Il veut nous emmener plus loin dans la poursuite du bien, dans notre foi. Jésus veut dîner. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Je dînerai avec lui et lui avec moi. J'ai toujours été étonné par cette fin de verset, avec lui et lui avec moi. Ça m'a toujours semblé étrange. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un bout en trop dans la phrase. Avec lui et lui avec moi. Je sais pas, c'est, même quand je le lis comme ça, ça me perturbe un peu. Je me dis, mais pourquoi, si c'est pas juste arrêté, je dînerai avec lui. En réalité, ce bout en trop, si je peux m'exprimer comme ça, eh bien, il est indispensable. Il est indispensable parce que nous l'avons vu, Christ eh bien, veut entrer en nous. Il veut demeurer de manière permanente. Et pour que cette présence ne soit pas partielle, ou qu'elle ne tombe pas dans l'oubli, eh bien, il est nécessaire qu'elle soit accompagnée d'une communion, d'un cœur à cœur. D'où le « je dînerai avec lui et lui avec moi ». Parce qu'il y a ce besoin de réciprocité. Après nous avoir exhortés à l'écouter, lui ouvrir la porte, eh bien voilà Jésus qui est à l'intérieur. Le voilà entré, et il nous faut maintenant entretenir la relation. Nouvelle pour les uns peut-être, et renouveler pour nous son Église, les croyants. Parce que vous savez, il y a cette étape où on est devant la porte, où on frappe, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, si on est invité. Et puis, lorsqu'on nous ouvre, est-ce que ben, finalement on irait chez des gens, puis on s'asseyerait, et puis les gens nous serviraient comme ça, et puis on repartirait? Est-ce qu'il y aurait cette communion? Et c'est ça finalement ce bout de phrase avec moi. C'est ce fait que Jésus ne demeure pas juste venir chez nous, dîner et puis repartir. Non, il désire dîner avec nous. Il désire vivre avec nous. Il s'intéresse à nous. Il s'intéresse à son Église. Qui n'a jamais rêvé que Jésus dîne chez soi? Alors, ce serait peut-être stressant pour certains. Apparemment, pour Mathieu, ça irait. On aurait tant de questions à lui poser, tant de choses à lui demander. Alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire dîner ou souper? Eh bien, le repas, le souper, dans la culture en tout cas, et dans notre culture aussi, c'est un moment convivial, c'est un moment approprié. Pourquoi? Eh bien, pour nourrir des relations. Et d'ailleurs, les repas fraternels qu'on vit de temps en temps ici à l'Église, eh bien, c'est vraiment des moments qui sont faits pour ça, pour nourrir les relations. Et c'est le cas de le dire, nourrir, nourriture, repas. Ici, la relation dont il est question, eh bien, c'est celle entre Dieu et son peuple. Aujourd'hui, entre Jésus et l'Église, et nous y sommes inclus. Ce dîner, ce serait donc le temps eh bien, de faire grandir notre relation avec lui, avec Christ. Et il faut le dire que, en fait, c'est même bien plus que cela. On ne peut pas échapper à l'idée d'une communion. Cette communion qui avait presque disparu de cette Église, mais Jésus, eh bien, il ne nous propose pas seulement de la revivre, mais il en fait une promesse définitive. Je dînerai avec lui et lui avec moi. C'est une promesse. C'est pas, on verra. Peut-être que si jamais la déco est sympa, je dînerai avec lui. Non, c'est je dînerai avec lui et lui avec moi. Même si la déco est pas sympa, il dînera avec nous. Cette image du repas, en fait, elle est remplie de sens dans la culture dans laquelle est écrit ce texte. Et c'est le signe d'une alliance, d'une réconciliation, d'un accueil. Et on trouve un écho au festin messianique qui se trouve dans Ésaïe 55, versets 1 et 2. Je ne vais pas le lire, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter ce texte. Le dîner dont il est question, eh bien, c'est ce moment où la relation à Christ se vivra de façon pleine, de façon durable, de façon permanente et finalement de façon éternelle. Ce dîner, bah, c'est quoi? C'est la vie éternelle, tout simplement. C'est la vie éternelle. Et Jésus, qui se tient devant la porte, qui frappe, je le rappelle, qui désire que nous l'entendions, que nous ouvrions la porte, eh bien, nous propose dès aujourd'hui de vivre un avant-goût de la vie éternelle sur terre, en Église. Un avant-goût de la vie éternelle. En étant rassemblés, en louant son nom, en ne l'oubliant pas dans nos activités, dans nos projets, mais en l'incluant, et plus que de l'inclure, en faisant notre priorité, le but pour lequel on se réunit. Cette communion que nous vivons partiellement sur terre, eh bien, elle s'accomplira dans les cieux, et nous vivrons pour toujours. Quelle promesse! Quelle promesse! Vous voyez que c'est bien plus qu'un simple repas. C'est une promesse de vie éternelle. C'est un repas indispensable auquel, eh bien, nous goûterons. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Cette promesse, eh bien, du verset 20, elle est confirmée et elle est amplifiée encore au verset suivant. Christ, eh bien, ne vient pas seulement manger chez nous, il vient manger avec nous. Et il désire que nous mangions avec lui. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Là encore, il y a cette même idée. Ce n'est pas le vainqueur, ben, il pourra me regarder siéger sur mon trône. Ce n'est pas si vous ouvrez la porte, vous pourrez me regarder manger. Quoique, ça doit être sympa de regarder manger Jésus. Mais le vainqueur, nous, si nous ouvrons la porte, eh bien, nous mangerons avec Jésus. Nous serons participants de son règne éternel. Et je crois que cela doit plus que jamais nous entraîner à renouer dans notre communion avec le Seigneur. Elle qui peut-être a parfois disparu. Alors peut-être en Église, peut-être individuellement. Et je vous invite peut-être à un petit temps de recueillement. Simplement de baisser notre tête, si vous le désirez, et de réfléchir. Est-ce que nous avons mis Jésus à la porte? Est-ce que nous entendons Jésus frapper? Est-ce que nous laissons notre cœur ouvert? Est-ce que nous préparons la table? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir Jésus et à manger avec lui? Parce que Christ est à la porte. Parce que Christ veut entrer. Parce que Christ veut dîner avec toi, avec moi, avec nous. Parce que son espérance n'est pas réservée à une caste. Parce que Jésus est venu sur terre pour ceux et celles qui croiront. Ceux et celles qui le laisseront entrer et qui voudront bien dîner avec lui. Finalement, le message de ce verset, eh bien, il est plein d'espoir. Il est plein d'espoir et il nous invite à obéir et à ne pas abandonner notre orgueil. Notre orgueil, notre suffisance, pour laisser la pleine place à Christ. Croyant ou non croyant, ce message bien nous concerne. Que vous ayez fait un chemin avec Jésus ou pas, Jésus, il est là, il est devant la porte. Il est présent. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et lui avec moi.